Décryptage, Marie Cazadebé.
Un ministre de l'Intérieur qui veut imposer sa politique migratoire, un chef de gouvernement sous ultimatum pour trouver une solution. Ça se passe en Allemagne, un pays qui a ouvert ses frontières il y a 3 ans et qu'une nouvelle coalition tente de fermer au plus vite. Horst Seehofer.
Si un accord européen ou des accords bilatéraux voit le jour d'ici à la fin du mois, nous nous en réjouirons. Mais si cela n'est pas possible, le refoulement des migrants à nos frontières doit être mis en place.
Le délai est court pour Angela Merkel qui se retrouve pieds et poings liés à son ministre si elle veut sauver sa fragile coalition. Une situation assez symptomatique de l'Union européenne. La question de l'immigration divise ses membres, mais aussi au sein même de chaque pays. Comment l'Allemagne en est arrivée à une telle crise? Dans ce contexte, comment se présente le Conseil européen de la semaine prochaine? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Hans Stark.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes professeur de civilisation allemande à la Sorbonne, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales. Nous sommes aussi au téléphone avec Thomas Liebig. Bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste des migrations à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui vient de publier aujourd'hui son rapport Perspective des migrations internationales 2018. Alors le ministre allemand de l'Intérieur qu'on vient d'entendre veut reconduire à la frontière tous les demandeurs d'asile qui sont enregistrés dans un autre État que l'Allemagne. La chancelière allemande est contre, Hans Stark. Alors, qui décide en Allemagne? Est-ce qu'un ministre allemand peut aller à l'encontre de sa chancelière?
Alors, un ministre allemand peut en effet pousser jusqu'au bout, entre guillemets, son chancelier ou sa chancelière en allant très loin dans l'interprétation de ce qui relève de ses droits autonomes en matière de gestion politique. Mais à la fin, la chancelière a le dernier mot. Elle a le droit de fixer le cap. Elle a la compétence de fixer le cap. Si elle ne parvient pas à fixer le cap, au contraire, elle va montrer une faiblesse. Et cette faiblesse va finalement entraîner un peu sa chute politique à terme. Donc, si elle est contre, elle peut s'y opposer. Et donc, finalement, c'est un clash. Et ce clash va forcément se traduire par le départ du ministre.
Si Hans Seehofer va jusqu'au bout de sa mesure, il pourrait donc être limogé. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce que c'est ça finalement que cherche le ministre de l'Intérieur? Ou à
Alors,
faire plier la
chancelière? Je ne pense pas qu'il cherche à être limogé. Hein. Nous avons un double contexte politique difficile en Allemagne. Nous avons sur le plan régional des élections bavières. Mois d'octobre. Et ces élections bavières, bon, enfin, nous avons toujours des élections dans les Länder allemands, on le sait, on a 16 Länder, et normalement, ça se passe bien, mais en Bavière, le parti qui dirige ce Land est habitué à des majorités absolues, depuis très longtemps. Donc, partager le pouvoir pour la CSU, c'est un aveu de faiblesse insupportable. En plus, ils ont la surenchère de l'extrême droite, qui est bétonnée autour de 12%. Et quoi qu'ils fassent au sein de la CSU, la branche conservatrice bavaroise des chrétiens démocrates, ils ne parviennent pas à réduire le score dans les sondages de l'AFD. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a un vent de panique qui s'est emparé d'eux, parce qu'ils savent que c'est l'élection du 14 octobre, ils ne vont pas la perdre, mais ils vont très mal la gagner. Et donc ils se livrent maintenant à une surenchère et bien, finalement, je pense qu'ils veulent... Peut-être même la tête d'Angela Merkel, qui est la tête turque des personnes qui votent extrême droite en Allemagne, parce qu'elle a justement, comme vous avez dit tout à l'heure, ouvert les frontières en 2015.
Ça veut dire que la CSU de Horst Seehofer met un coup de barre à droite, finalement, pour faire face à cette concurrence dans les urnes de l'extrême droite en Bavière.
Ils essayent par ce biais-là, en effet, de réduire le score probable de l'AFD le 14 octobre pour avoir une majorité dans la chambre régionale de ce Land.
Alors le SPD, pourtant allié de la CSU, prévient que la libre circulation au sein de l'Union européenne ne doit pas être bradée sur l'autel de la politique. Est-ce que c'est l'impression, Thomas Liebig, que ça vous donne aussi, que la question migratoire en Allemagne est instrumentalisée?
Bon, premièrement, permettez-moi de rappeler quelques chiffres clés concernant la migration en Allemagne. La composante la plus importante des flux migratoires vers l'Allemagne, c'est pas le flux de réfugiés, c'est la migration intra-européenne, donc qui est liée à la forte demande du marché du travail. Donc, c'est une migration qui est liée à la bonne conjoncture en Allemagne. Ça, c'est la première composante de flux migratoires vers l'Allemagne. Bien sûr, il y a aussi la forte composante de réfugiés. Et cette groupe-là, ils ont plus de difficultés à s'intégrer au marché du travail, ça c'est clair. Mais le chiffre actuellement, c'est encore pour le marché du travail. L'impact que nous mesurons, il est pas énorme en ce moment.
Ça veut dire que le coût économique, c'est ça que vous êtes en train de dire, n'est pas aussi énorme que ce que souhaiterait faire entendre finalement la droite, l'extrême droite allemande.
Du point de vue du marché du travail, l'Allemagne a une très bonne conjoncture. L'impact est très limité sur le marché du travail. Il y a peut-être un groupe où on peut constater une certaine concurrence, c'est le jeune homme peu qualifié, où nous mesurons un impact plus fort, mais c'est une groupe qui, en Allemagne, est très petite aussi, grâce au bon système d'éducation, notamment avec l'apprentissage. Là, il faut peut-être regarder de plus près une potentielle concurrence, mais une fois de plus, c'est une groupe assez petite, en comparaison aux autres pays européens, et en plus, le marché du travail allemand est dans un très bon état, donc il peut parfaitement aussi absorber de grands flux comme l'Allemagne a connu, y compris avant la crise des réfugiés, par la migration intra-européenne.
Hans Stark, est-ce que vraiment l'argument de la CSU ou alors même de l'AfD est vraiment économique ou est-ce qu'elle n'est pas plutôt culturelle ?
Il est politique. D'abord, revenons peut-être en effet sur les chiffres des réfugiés. En 2017, il y a eu quelques 186 000 réfugiés demandeurs d'asile qui sont arrivés en Allemagne, 5 fois moins qu'en 2016. Et en 2018, au premier trimestre, il y a encore une baisse, Monsieur Dibich va peut-être me corriger, autour de 15% par rapport à 2017. Donc on ne va pas arriver aux 186 000 personnes normalement en fin d'année 2018. Bref, il n'y a pas d'urgence. Mais il s'agit maintenant, je pense, d'instrumentaliser cette question qui, en effet, ni du point de vue économique, ni du point de vue de la gestion des flux migratoires, est une vraie urgence, pour réduire le score de l'extrême droite, mais aussi peut-être derrière, du point de vue politique, pour accélérer le départ d'Angela Merkel du pouvoir. Car il y a aujourd'hui, semble-t-il, une fronde, peut-être pas majoritaire, minoritaire, au sein de la CSU, peut-être même au sein de la CDU, une fronde qui voudrait voir un changement à la tête du gouvernement fédéral. Oui. Et c'est pour ça que c'est quand même malgré tout sérieux.
Alors si l'on revient aux mesures que souhaite imposer le ministre allemand de l'Intérieur, qui sont, Thomas Liebig, ces demandeurs d'asile présents en Allemagne mais enregistrés ailleurs, de qui parle finalement, j'ai plus son nom en tête, si Horst Seehofer.
Voilà, donc là, il faut premièrement rappeler que les flux ils ont aussi changé au sein de l'Europe. Dans la période de la soi-disant crise des réfugiés, donc 2015-2016, la moitié des flux orientés vers l'Europe, c'était de gens venant de pays comme la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Ça, c'était la moitié environ de flux de demandes d'asile. Actuellement, dans l'OCDE et dans l'Europe en total, on a une grande diversité. C'est plus ces trois premiers pays qui font quasiment la moitié des flux. Il y a une forte diversité de flux. Par exemple, en France, c'est le genre de l'Albanie qui sont en premier lieu. En Allemagne, il reste ces trois pays, Syrie, Irak, Afghanistan, qui sont les trois premiers, à une échelle beaucoup plus réduite par rapport à ce qu'on a connu dans les autres années, comme vient de rappeler le collègue à Paris.
Et Thomas Liebig, si on parle de reconduite à la frontière, ça veut dire que ces demandeurs d'asile se sont enregistrés ailleurs. On parle évidemment d'Italie et de Grèce surtout. C'est là qu'ils sont arrivés.
Bien sûr, la grande partie de ces personnes qui seront concernées seront vers ces deux pays-là. Donc c'est une des raisons aussi pour laquelle Angela Merkel rappelle que ces deux pays déjà qui ont une lourde charge par rapport au nombre de gens qu'ils ont accueillis, même s'il faut constater que le flux actuel en 2018 semble plus faible que le flux qu'on a connu en 2017, qui était plus faible que le flux qu'on a connu en 2016 et 2015. Donc, c'est pas une situation de flux extrême en ce moment. Le contraire, c'est pour l'instant, il faut toujours dire pour l'instant, parce que la situation reste incertaine pour l'avenir, bien sûr. Pour l'instant, cette année, il n'y avait pas une augmentation, plutôt le contraire.
Hans Stark, ce sont donc, on l'a compris, des migrants qui sont arrivés par l'Italie ou par la Grèce, qui ont été enregistrés.
Bulgarie.
et la Bulgarie, qui aujourd'hui se retrouvent en Allemagne. Quel est le problème du fait qu'ils soient en Allemagne ?
Le problème, c'est d'abord qu'il y a un risque d'un petit jeu, comme un peu entre la France et l'Italie, de jeu chat de la souris. Hein. L'Italie laisse passer les gens qui sont enregistrés en Italie, et la France, finalement, ne veut pas et fait le nécessaire pour qu'ils finalement reviennent en Italie. Donc, c'est une situation de va-et-vient. Et ça, en Allemagne, on voudrait éviter. Alors, on compte environ par an 60 000... demandeurs d'asile qui arrivent en Allemagne et qui ont déjà été enregistrés ailleurs. Donc ça, c'est le chiffre. Pour l'instant, ils sont tolérés. Donc c'est une forme, une façon un peu très inofficielle de soulager un peu les partenaires grecs et italiens.
Mais ils sont quand même dans une situation qui n'est pas légale et qui permettrait, façon légale aussi, de les refouler.
Elle peut devenir légale à partir du moment où en Allemagne on ne traite pas leur dossier suffisamment rapidement et après quelques mois, si le nécessaire n'a pas été fait, le premier enregistrement qui a été fait en Italie ou en Grèce devient caduc et c'est l'Allemagne qui serait en charge de l'instruction de ce dossier-là. Et c'est la raison pour laquelle Seehofer dit il faut même pas les laisser arriver sur le sol allemand, et dès qu'on voit à la frontière, dans le système Eurodac, qu'ils ont déjà été enregistrés, quand on voit à travers les empreintes digitales qu'ils ont été déjà enregistrés ailleurs, eh ben, il faut les refouler.
Alors écoutez justement la réponse à son ministre, d'Angela Merkel.
Il y a un consensus pour affirmer qu'une demande d'asile doit être traitée dans le premier pays européen où elle a été déposée. Nous avons des divergences avec nos alliés bavarois sur le refoulement ou non à nos frontières de migrants ayant déjà effectué une demande d'asile ailleurs. J'y suis opposée car c'est une mesure unilatérale. C'est pourquoi je vais m'efforcer, en amont du sommet européen, dans 2 semaines, de conclure des accords bilatéraux avec les pays où une première demande a été déposée pour qu'il soit juridiquement clair qu'il leur revient de la traiter.
Thomas Sebi, que signifient les accords bilatéraux qu'évoque Angela Merkel ? La chancelière veut obtenir par exemple de l'Italie ou de la Grèce qu'ils acceptent de réaccueillir les demandeurs d'asile ?
Exactement, ça, on ne connaît pas les détails de ce qui est planifié, mais clairement l'idée c'est d'avoir un partage de responsabilités pour en même temps admettre que c'est ces pays-là qui devront avoir le premier accueil et de demandes d'asile par les accords de Dublin, mais en même temps éviter que eux seuls ils se trouvent dans la responsabilité de ces flux. Donc il y a plus de solidarité européenne. Et par ailleurs, c'est ça la grande question. Si on regarde le flux absolu vers l'Europe, en chiffres relatifs, c'est absolument maîtrisable. L'Europe est complètement capable, du point de chiffre, du point d'impact, de gérer ça. Mais le problème, c'est qu'il y a une très forte concentration sur certains pays. Mmh. Et ça, c'est la problématique, c'est un manque de solidarité et d'une réponse collective de l'Europe, même si on peut quand même constater qu'il y avait des progrès.
Mais alors, si le ministre de l'Intérieur allemand allait jusqu'au bout et refoulait donc ces demandeurs d'asile, mais sans accords bilatéraux avec les pays d'accueil, qu'est-ce qui se passerait ? Ce serait une crise politique.
Bon, ça, c'est spéculatif ce qui va arriver. Mmh. Premièrement, il y a des forts efforts maintenant de la part d'Angela Merkel et du gouvernement allemand et en solution avec des autres partenaires européens de trouver une solution. Donc je crois que ça serait un peu spéculatif en ce moment de dire qu'est-ce qui arrivera dans quelques semaines s'il n'y a pas un accord qui est trouvé. Donc moi je ne veux pas participer à cette spéculation.
D'accord, alors au lendemain en tout cas de l'annonce de l'ultimatum de son ministre de l'Intérieur, Angela Merkel recevait Emmanuel Macron en Allemagne. Il ne devait être question que du projet de budget européen, mais la question migratoire s'est imposée, même si le porte-parole du gouvernement français s'en défend.
Ça n'est pas les déclarations qui ont été faites par le ministre de l'Intérieur allemand ces 24 dernières heures qui ont appelé une nécessité ou une urgence particulière. C'est le constat partager que depuis des semaines, voire des mois, il y a une urgence absolue à ce que nous puissions établir une position européenne commune, fermement défendue à la fois par la France et par ce partenaire européen traditionnel, parce que ce que dit l'épisode dramatique que nous venons de vivre de l'Aquarius, eh bien, c'est qu'il n'y a plus de solidarité européenne sur la question migratoire. L'Europe connaît une crise sans précédent, parce qu'elle est de nature politique, morale, éthique.
Benjamin Griveaux qui évoque l'épisode de l'Aquarius, l'Italie qui refuse la semaine dernière de laisser accoster ce bateau avec ses 629 migrants. Rome a là affiché la fermeté de la politique de son gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Hans Stark, précise que les dirigeants allemands et français sont à peu près sur la même longueur d'onde. Le refoulement donc des demandeurs d'asile dans les pays d'origine, la création d'un centre d'examen, deux centres d'examen en Afrique du Nord, un renforcement des contrôles aux frontières de l'Europe. Vers quoi, à votre avis, on se dirige finalement ? Est-ce que ça ressemblerait pas à quelques arrangements entre pays plutôt qu'à une politique à l'échelle de l'Europe ?
Bon, en général, pour arriver à des compromis à l'échelle de l'Europe, il faut déjà, entre plusieurs pays, commencer à s'entendre. Et d'ailleurs, ça commence généralement en franco-allemand, et après, il faut en effet veiller à ce qu'on élargisse le plus rapidement possible à un consensus franco-allemand pour que notre coopération bilatérale ne soit pas ressentie comme une politique directoire, entre guillemets. Il faut être très sensible à ce niveau-là. Mais il est clair que en amont, on ne va pas trouver un compromis pour 27 ou 28, si j'inclus la Grande-Bretagne. Sur les questions migratoires, parmi tous les dossiers qui étaient sur la table à Meseberg, hier, en franco-allemand, c'est sans doute les questions migratoires qui étaient les plus faciles entre guillemets, pour trouver un compromis en franco-allemand. C'est là où on était le moins éloigné entre Paris et Berlin.
Parce que finalement, la France et l'Allemagne se retrouvent à peu près sur la même ligne politique ?
Ils se trouvent tout à fait sur la même ligne politique, même si dans le passé, ces dernières années, la France a été beaucoup plus ferme en termes d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Et c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que finalement la France et l'Allemagne ne se retrouvent pas sur la même ligne maintenant aussi qu'Angela Merkel est poussée vers la droite par son ministre de l'Intérieur ?
Mais bien entendu, ça fait depuis 2-3 ans que la politique allemande en matière d'accueil des réfugiés s'est durcie. La question par exemple aussi du rapprochement familial en Allemagne, il y a beaucoup plus de fermeté qu'il y a encore quelques années. On n'est plus du tout en 2015. Ça n'a plus rien à voir. Et on est en train peu à peu d'instaurer aussi une forme de, je dirais, de dissuasion pour faire en sorte que l'Allemagne ne soit plus perçue partout comme étant un havre de paix qui pourrait en provoquer en plus un appel d'air et donc multiplier encore le nombre de personnes qui vont arriver. Bref, je pense qu'on est sur là sans doute le dossier le moins épineux en franco-allemand si je le compare à celui de l'eurozone ou de la défense européenne.
Thomas Liebig, est-ce que si l'Allemagne durcit encore sa politique d'immigration alors qu'elle a été un temps, on le disait, en pointe finalement dans l'accueil, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de moteur pour une politique européenne d'ouverture et d'accueil?
Il faut séparer clairement la migration venant des canaux de l'asile et migration humanitaire. Pour ceux qui ont le droit de l'asile, c'est qu'une partie de ces flux qui arrivent à l'Europe qui ont un vrai besoin de protection et donc ça c'est une partie. Et l'autre partie c'est la migration légale de travail. Et là, par ailleurs, en Allemagne, il y a un débat et même un consensus au sein du gouvernement pour encore plus d'ouverture vers la migration de travail, donc avoir plus de canaux légaux. Par ailleurs, c'est une des réponses à cette crise d'ouverture, plus de migration légale pour les gens qui vraiment utilisent ces canaux de demande d'asile, pas parce qu'ils ont besoin d'une protection, mais parce qu'ils cherchent de l'intégration économique. Et pour cela, c'est la migration de travail, donc une migration bien gérée qu'il faut. Donc là, il faut des canaux légaux. Et aussi là, il y a de la matière à travailler là-dessus pour plusieurs pays. Et l'Allemagne est en train déjà de réfléchir là-dessus.
Hans Stark, en quelques mots pour conclure, ce Conseil européen de la semaine prochaine, vous l'envisagez comment ? Vous pensez qu'un échec est inévitable sur la question migratoire ?
Non, à l'échelle européenne, un échec n'est jamais inévitable. Mais la question de savoir, est-ce que Mme Merkel va obtenir en effet ces fameux accords bilatéraux dont elle a besoin pour réduire un peu la pression qui règne maintenant en Allemagne autour d'elle, on est quand même à quelques doigts d'une chute d'une chancelière au pouvoir depuis 2005.
Ce sera le mot de la fin, Hans Stark. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à Thomas Liebig de l'OCDE qui était en ligne de Berlin. Merci à toute l'équipe de Décryptage, Eleonora Farad, Gérard Perrault, Claude Battista et Laura Vicenzi.